ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Henri Durel. Bonjour, vous êtes professeur d'études anglo-américaines. Vous êtes revenu exprès pour cette émission de Saint-Étienne ou de Lyon, mais vous avez été longtemps professeur d'anglais à Jean Jaurès.
Oui, absolument.
Oui. Mais avant, vous étiez à Oxford.
Oui, j'ai enseigné comme French lecturer à Oxford et j'ai fait également un très beau diplôme anglais à Oxford.
Et moi, je vous ai demandé de venir. Alors, je suis très honoré parce que vous êtes à la fois un homme de science, un homme de foi, ma foi, j'y crois, et un ami. Mais surtout, vous venez nous parler de Francis Bacon.
Merci, Benoît. Oui, Francis Bacon est un de mes, peut-être le sujet que je préfère. J'ai pas mal réfléchi sur lui et pas mal écrit sur lui.
Vous étiez élève de l'École normale supérieure et vous avez publié de nombreux articles, entre autres un résumé de votre thèse dans les cahiers de l'équipe
de la réforme et de la contre-réforme de l'Université de Clermont-Ferrand.
Alors ça, moi, ça m'intéresse beaucoup comme sociologue des idées, mais vous n'avez pas peur que vous soyez confronté à quelqu'un qui se dit parfois agnostique dans sa lecture du monde ou de sa lecture de la Bible. Vous qui avez lu combien de Bibles, vous en avez combien chez vous? Et surtout, vous avez lu les Bibles de Francis Bacon.
Alors, j'ai une Bible en français, deux Bibles en anglais, la même traduction, un Nouveau Testament en grec, et puis j'ai une Bible en latin, mais j'ai lu des Bibles différentes à propos des citations que fait Francis Bacon.
Des interprétations qu'il fait, et c'est là où ça m'intéresse, comme j'allais dire, je ne suis pas linguiste, mais dans l'étude intertextuelle. Est-ce qu'on peut tout dire à partir d'un texte? Alors, la Bible révélée ou production de l'homme?
Alors, pour Bacon, la Bible est révélée par Dieu, mais les traductions et puis matériellement les livres sont des productions humaines et il les confrontait et surtout il prenait la traduction qui lui convenait le mieux pour soutenir ses idées, non seulement la traduction, mais il y avait des notes, et ça, il utilise la traduction et les notes, ou les traductions et les notes.
Ça sent un peu l'hérésie, mais j'avais pensé au début que nous annoncerions trois points, alors que là, nous en avons déjà pour trois jours. Trois points, c'est la biographie de Francis Bacon, né en 1561
oui.
À Londres, et mort en
1626.
Oui. Donc sa biographie, première partie, la deuxième partie, eh bien, c'est un homme de foi qui
oui.
Est profondément scientifique et donc il va confronter sans cesse la foi et la raison. C'est pour ça que je suis heureux que vous soyez là comme chercheur, mais aussi vous êtes profondément croyant.
Absolument. Oui, et je suppose que il y a quelque chose de ma foi chrétienne dans mon intérêt pour Francis Bacon.
Alors, la foi, mais aussi l'aspect un peu contemporain, parce qu'on ne va pas parler trop du Brexit ou du calvinisme aujourd'hui dans ses relations avec le catholicisme ou avec la réforme. Je crois que ce sont des thèmes extrêmement intéressants, mais on ne peut pas comparer la séparation des églises et de l'État, loi 1905, renouvelée aujourd'hui, avec la situation historique de l'Angleterre, où le roi du Royaume-Uni est à la fois, on va dire, il n'est pas ministre des cultes, ça ne veut rien dire tout ça.
Non, hein? Il est à la tête de le roi ou la reine, est à la tête de l'église anglicane, en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.
D'ailleurs, vous nous avez apporté un beau cadeau, une musique. Je dis aux auditeurs, restez au moins jusqu'à la 14e minute pour ce cadeau que vous nous avez fait de cette musique. Alors oui, le cadre historique et la biographie. Bacon, né en 1561, il a 12 ans seulement lorsqu'il entre à Cambridge.
12 ans et 3 mois. Alors, il y a deux raisons pour cela. Premièrement, il n'y avait pas d'école secondaire au sens actuel. Il y avait l'école primaire, on apprenait à lire et à écrire et à penser dans une large mesure en latin, et ensuite, on était prêt pour les études supérieures à l'université. Mais l'autre raison pour cette arrivée précoce à l'université de Cambridge, c'est que le jeune Francis accompagnait son frère aîné, Anthony, donc les deux frères.
Qui avait 14 ans, lui,
Oui.
Anthony. Alors, c'est intéressant de signaler qu'il va faire de la rhétorique, de la logique. Il lit Aristote en latin et en grec, dans la tradition de Boèce, n'est-ce pas? C'est donc latin du 5e, 6e siècle. C'est déjà un latin un peu vieillot, non?
Difficile à dire parce que je n'ai pas lu beaucoup de Boèce,
Boèce.
mais ce qui est intéressant, c'est que on a une liste des ouvrages achetés par les frères Bacon. Il y a Aristote grec, Aristote latin, ce qui veut dire, j'ai vérifié, les œuvres complètes en grec, les œuvres complètes en latin.
Et tout l'intérêt, c'est justement de voir comment il y a des translations, des différences. Mais revenons peut-être à ce jeune Francis qui part en France avec l'ambassadeur d'Angleterre pour élargir sa formation. Rien que ça, monsieur. Et puis, eh bien, c'est les transmissions chiffrées, c'est le décodage,
Oui,
donc c'est la
absolument.
logique.
Oui. Et c'est 2 ou 3 ans qu'il passe à Paris. Et ensuite, brusquement, il est rappelé parce que son père est mort brutalement.
1579. Donc là, sa formation de juriste va peut-être céder la place à un engagement politique.
Alors, en réalité, c'est les deux. C'est la formation juridique et puis la politique assez vite, mais je n'ai pas les dates. Il est aussi élu membre du Parlement et le restera pendant de très nombreuses années.
On est dans la noblesse et dans des intellectuels qui ont une vision du monde qui est, d'abord parce qu'il a voyagé, qui est assez noble, il faut le dire,
Oui.
et en même temps, c'est un grand observateur de la nature.
Oui, alors, il fait assurément partie de l'aristocratie politique et intellectuelle. Son père était garde des Sceaux et il avait un oncle, Burleigh, qui faisait également partie, qui était également ministre. Et puis, l'observation de la nature, ça s'est fait par des liens avec un grand botaniste qui était en lien avec tous les botanistes de l'Europe et qui a publié un ouvrage en anglais, ce qui est remarquable.
Ses outils, c'est la balance et l'œil, l'observation, ce qui lui permet de saper, vous le dites, de critiquer la physique d'Aristote.
Oui, alors, la physique d'Aristote, d'emblée, il la repousse. C'est même pas la réfute. Il la repousse parce que, à l'université de Cambridge, Aristote était considéré comme la vérité à l'égal de la foi chrétienne. Et j'ai lu que, à cette époque, à l'université de Cambridge, on était passible d'amende si on disait quoi que ce soit contre Aristote. Bien, donc, il n'y a pas de liberté, c'était non pas Aristote le philosophe, mais l'idéologie aristotélicienne.
Alors, c'est à la fois cette critique de la société, mais aussi sa foi chrétienne profonde à la suite de son père, qui lui fait espérer de pouvoir tirer parti de ses études universitaires pour transformer le monde.
Alors, l'idée de transformer le monde par la science, je crois qu'on peut la dater, c'est un peu difficile, de l'année 1584. Et ceci de la manière suivante. Il a écrit un ouvrage dans les années, disons, aux alentours de 1603, qui n'a jamais été publié de son vivant parce qu'elle est trop destructrice de toutes les théories de son temps. Cette œuvre s'appelle « Temporis Partus Masculus », littéralement « l'accouchement du temps », mais vous avez ensuite « partus », c'est le mot qu'on a dans « parturiente », la femme qui accouche, et vous avez ensuite un mot absolument aberrant à côté, « masculus », masculin, l'accouchement masculin. Ça n'a aucun sens. Oui. Sauf que, un jour, entrant dans la bibliothèque d'Oxford, il y avait une Bible ouverte au premier chapitre de l'Exode, où l'on voyait un ordre du Pharaon pour exterminer les Hébreux. Lorsque, je traduis, donc, lorsque le temps de l'accouchement, on a les deux mots tempus et partus, sera arrivé, si c'est un mâle, masculus, tuez-le. Et en donnant cet ordre, il voulait exterminer les Hébreux. Mais il y a un Hébreu mâle qui a échappé, il s'appelle Moïse, et c'est lui qui conduisit le peuple hébreu jusqu'à la terre promise. Et par là, il est clair que Bacon se voit un nouveau Moïse conduisant l'humanité vers une terre promise grâce à la science nouvelle.
Vous êtes en pleine idéologie. Nous avons eu un échange avec Madame Françoise Lourdou sur l'antisémitisme. Ce serait aussi un autre chapitre que ces pogroms en Europe, en Angleterre. Mais justement, puisque vous parlez de l'enterrement d'une vision du monde, puisque vous avez déjà évoqué la famille, on reverra le mariage de Bacon dans la partie qui va suivre. Vous nous avez apporté ce cadeau de l'enterrement de la reine Mary que Christophe va nous faire écouter. Et nous reviendrons aussi sur l'aspect politique de Francis Bacon.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et vous êtes Henri Durel, professeur d'études anglo-américaines. Vous venez nous parler de Francis Bacon, de début de la sécularisation de l'idée de salut. Si je fais un contresens historique, n'est-ce pas? Je vous vois sourire, mais c'est vrai que parler de laïcité ou de parler de représentation du monde qui est autonome par rapport aux lectures religieuses, bon, nous ne sommes pas trop loin de ce que vous avez défendu dans votre lecture qui est encore actualisée, l'affirmation d'une science nouvelle en Angleterre. La réforme, la contre-réforme, nous sommes en plein dans ce bouillonnement d'idées oui, avant absolument. L'apparition des Lumières.
Oui. Alors, Bacon, oui, ce qui est intéressant, c'est que Bacon ne fait pas de la science pour faire de la science, mais il a d'emblée cette idée de faire de la science pour le bien de l'humanité. Il utilise le mot philanthropia, le mot grec, dans une lettre à son oncle en 1592. Et c'est un amour de l'humanité au nom du Christ comme chrétien.
D'ailleurs, il a eu la prière très tôt grâce à sa maman qui était d'une tendance, on peut le dire, puritaine.
Absolument.
Mais qui le faisait méditer. Cette représentation du monde où l'homme se reçoit de la gratuité de Dieu.
Oui, absolument. Alors, on n'a pas d'enregistrement, j'allais dire, direct de l'enseignement de sa mère, parce qu'en même temps, il avait son tuteur qui était un clerc et qui est devenu évêque, mais c'était la foi chrétienne, la foi chrétienne, la foi chrétienne.
Et puis une pratique dans les rituels, une certaine rigidité peut-être, on dirait aujourd'hui.
Il est difficile de savoir quel genre de pratique religieuse il avait. On pourrait dire que dans l'église anglicane, eh bien, la voie était large et il suffisait de ne pas être papiste, de ne pas être puritain.
Avec un compromis entre l'allemand Martin Luther et le suisse Jean Calvin. Donc, à l'époque aussi, les premiers manuscrits. Et donc, tout ceci, il se sentait vraiment en phase avec cette idée de progrès de l'humanité.
Oui, absolument. Alors, le mot « progrès » était difficile à dire, soit en anglais, soit en latin, parce que « progressus » en latin, ça peut être un progrès, ça peut être des progrès, et de même en anglais, « progress ». Dans le titre de son ouvrage de 1605, il a utilisé deux mots, « proficient » and advancement. To be proficient, c'est être bon en une discipline. Donc l'idée, c'est de faire que la science soit en bon état. Et puis advancement, qu'elle avance, mais c'est aussi une promotion politique. C'est pourquoi il a utilisé les deux mots, proficient and advancement.
Alors après, il faut aborder la question de cette date historique avec l'avènement de Jacques Ier, auparavant Jacques VI d'Écosse, parce que là, c'est maintenant l'aspect politique du philosophe.
Oui, 1603, l'arrivée de Jacques VI d'Écosse, devenu Jacques Ier d'Angleterre sur le trône, est une date importante pour Bacon. Pour une raison très simple, il avait compris que la science ne pourrait avancer que s'il y avait un mécène. Il avait tenté en 1595 d'obtenir que la reine Élisabeth soit cette mécène, ça avait été un échec total, et il écrit en 1604-1605 en demandant au roi d'être son mécène, et c'est le but de ce livre de publier en novembre 1605.
En anglais,
Publié en anglais, oui.
ce Advancement of Learning.
Pardon.
Je voulais dire en mauvais anglais la naissance d'une science nouvelle.
Oui, la science, la nouvelle, c'est la naissance d'une science nouvelle qu'il annonçait, et donc il avait besoin du mécénat du roi. Alors cette œuvre sera reprise, étoffée et publiée à la fin de sa vie sous la forme du De dignitate et augmentis scientiarum, de la dignité et des accroissements des sciences, donc en 1623.
Il faudrait dire qu'à cette époque, justement, à la fin de sa vie, il a été condamné, emprisonné et qu'il a vraiment terminé sa vie dans une certaine misère, non sans publier de nombreux articles. J'aurais voulu évoquer la question de son mariage, parce que c'est vrai que pour nous, c'est un peu étonnant de voir un homme de 40 ans qui se marie avec une jeune femme, enfin une jeune fille d'à peine 16 ans. C'est l'époque.
Je dois dire que je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Il y avait eu une tentative de mariage avant 1600, mais là encore, je ne sais rien sur l'une ou sur l'autre.
Vous savez davantage comment il faut lire la Bible de Genèse et puis la Bible des évêques et tous ces différents livres. Également, je dois le dire, c'est formidable l'index que vous avez mis à la fin de votre article. Nous cherchions tout à l'heure l'auteur et puis de Paracelse
Oui.
quand il observe les étoiles. Mais je voudrais que nous concluions, puisque vous avez apporté un peu une prière dans votre foi, Pâques. Jésus, Christ vivant, vous aviez un petit poème pour dire qu'à partir des chants de Robert d'Encalcate, et
Oui.
puis j'aurais aimé que vous parliez aussi de votre engagement au CVX chez les Jésuites, mais le temps nous est compté, cher Henri.
Alors, oui, depuis 2007 environ, je fais partie de Vie chrétienne, qu'on appelle en abrégé CVX. L'idée, c'est de cheminer avec le Seigneur en groupe. Nous avons une réunion toutes les trois ou toutes les 4 semaines, et donc nous méditons à partir d'un passage de la Bible.
Et en même temps, donc, votre foi, elle est nourrie par vos approches de ces intellectuels. Vous pouvez peut-être dire cette citation que l'on dit à Jésus: Heureux es-tu, Père, parce que tu as caché cela.
Aux riches et aux savants, et que tu l'as révélé aux tout petits.
Cette humilité que nous avons en comparant ces types de civilisations ou ces types de relations entre la religion et le politique que sont l'Angleterre ou que sont les pays européens. Nous n'allons pas parler du Brexit ici, mais c'est vrai que chaque pays a sa manière de conjuguer ou de définir les relations, comme à France Culture dernièrement, Sciences politiques nous a fait parler avec l'aumônier des parlementaires ou avec l'ancien Premier ministre et bientôt avec un des musulmans que j'appelle éclairé sur cette laïcité à la française. Et pour conclure notre réflexion, peut-être que si l'on dit que toutes ces Bibles sont des réservoirs de symboles, sont des réservoirs d'histoire où il y a eh bien, la banalité et la cruauté des relations entre les hommes, mais où il y a aussi ces moments d'espoir et d'espérance. Vous aimez beaucoup ce psaume.
Alors oui, il y a les deux premiers vers d'un psaume que je citerai en français. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? eh bien, le premier verset est devenu un peu la devise de l'université d'Oxford et il est gravé au-dessus de la porte d'entrée de la fameuse Bodleian Library.
On peut dire aussi que Francis Bacon est un initiateur du réfrigérateur, ou plutôt du congélateur, puisqu'il est mort lorsqu'il a voulu expérimenter
la congélation pour conserver un poulet.
En mettant de la glace à l'intérieur de son corps. Donc, Christ est ressuscité, nous venons de passer par ces moments de Pâques, et ce chant de Don Robert dans Calcat, vous nous le dites, Christ est vivant.
Oui, absolument. La voie est ouverte. Alléluia. C'est la Pâque de Jésus. À l'heure où l'espoir s'était enfui, Christ a surgi, vainqueur du tombeau.
La vie se rebelle. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur. Le chemin est libre. Alléluia. L'amour se révèle. Alléluia. Merci, Henri. À bientôt.